Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch chaque semaine. Nous analysons ensemble les shows de la WWE et aujourd'hui, c'est le Monday Night Raw du 6 janvier 2020. Le premier Monday Night Raw de cette nouvelle décennie. Et qui de mieux pour m'accompagner dans cette première analyse du show rouge de l'année 2020, évidemment, c'est Chris. Salut Chris.
Wouh ! Salut El Patron, salut peuple de Catch-Up, you're welcome.
Hey, happy New Year to you, two bitches. Comme disait Paul Heyman.
Paul Heyman Styles.
Bon, Paul Heyman qui est venu prendre son chèque hein, avec Brock Lesnar. Ils étaient annoncés, surtout eux ont une grosse annonce à nous faire, puisque on est à l'approche hein, du Royal Rumble et Brock Lesnar et Paul Heyman sont un petit peu embêtés, puisque basiquement, dis-moi si tu es d'accord avec lui, personne ne mérite d'avoir la chance ou personne n'est assez de couilles pour défier Brock Lesnar. Et du coup, c'est un peu la merde. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Sur un certain plan, il a limite pas tort, quoi. Finalement, puisque personne ne s'adresse à Brock Lesnar directement, personne ne vient le défier pour le titre universel.
C'est vrai qu'il est peinard.
Le mec, il est intouchable, quoi. Il n'y a pas un mec depuis deux mois qui... Enfin, depuis Rey Mysterio, personne n'est venu pour dire « Ah ouais, non, mais moi, je veux la ceinture. Moi, je veux affronter le Brock. » Donc, quelque part, le Paul Heyman, il est dans la légitimité.
Il est souvent dans la légitimité, hein, c'est marrant. Hein. Bon, c'est facile quand ton client est Brock Lesnar.
Ah oui, c'est toujours plus simple hein, quand t'as un gros mastodonte comme ça qui détient la ceinture.
Le public qui eut évidemment Brock Lesnar ou Paul Heyman. Paul Heyman dit, on ne eut pas Brock Lesnar. Brock Lesnar, je vous rappelle, il a battu le Taker à Mania, il a gagné tous les titres. Et il est le premier alors champion, il nous fait le pedigree hein, le champion UFC universel, poids lourd WWE, c'est vrai que il est rarement sans une ceinture autour des hanches et du coup finalement Paul Heyman il a une petite idée puisque personne n'a les couilles d'aller défier Brock Lesnar, c'est un petit peu Brock Lesnar qui va aller se présenter. Et quoi de mieux que tout simplement participer au Royal Rumble hein, pour aller un petit peu tâter le terrain et voir qui aura les couilles de défier Brock Lesnar. Alors là, ah ouais, Brock Lesnar, Royal Rumble, mais attends, il a déjà le titre, en plus il va faire le Rumble, ce mec est ouf. C'est pas fini, puisque Paul Heyman nous annonce que Brock Lesnar entrera en numéro...
Uno.
Donc, numéro 1, pour nos amis qui ne sont pas bilingues, et ils sont nombreux, qui pensent que Uno, c'est ce jeu de cartes-là, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. On va retourner jouer au Scrabble. Et du coup, il va entrer en premier, et il va sortir en dernier. Parce que c'est Brock Lesnar. Donc, Brock Lesnar est officiellement le premier participant, le numéro 1 du Royal Rumble. Et ça, c'est pas... Et il va gagner. Et c'est pas une prédiction, c'est un...
Spoiler.
Eh ben, quelle histoire.
Tu m'étonnes. Quelle affaire. Alors déjà, commencer un Raw sans Seth Rollins, c'est pas mal. Ça faisait très très longtemps que je crois que c'était pas arrivé. Parce que Seth Rollins, c'est un spécialiste d'ouvrir et de fermer Raw. Donc pour une fois, on n'avait pas Seth Rollins. Donc moi, je trouve que ça, c'était plutôt appréciable. Ça changeait un peu. Et puis, quoi de mieux que le boss final de le boss de fin de niveau, quoi, hein, qui est Brock Lesnar, quoi. Sauf que là, l'énorme surprise, c'est quand même que le boss final, il va commencer en numéro 1 au Rumble. Alors bon, il y a quand même un peu de flou artistique sur certains trucs, quoi. Est-ce que sa ceinture va être mise en jeu ? Est-ce que s'il gagne le Rumble, il va aller défier le Fiend, par exemple ? Qu'est-ce qui va se passer autour de tout ça, quoi ? Moi, je trouve que c'est bien, cette affaire, parce que je trouve que ça ouvre plein de pistes. En plus, ça ouvre plein de pistes au niveau du booking du Rumble match en lui-même. Soit tu vois, on a genre un Brock Lesnar qui va défoncer du jobber pendant 10-15 minutes pour commencer, ou alors on va avoir un énorme numéro 2. Bon, moi j'aimerais passer sur ce... Enfin, j'aimerais qu'on aille sur ce scénario-là, quoi, hein, qu'on ait un énorme numéro 2. Alors, ne me demandez pas quel numéro 2. Par pitié, pas Caïn Velasquez. Mais j'ai beaucoup peur de ça. J'ai beaucoup peur de l'arrivée d'un Caïn Velasquez, quoi. Mais écoute, globalement, bah, moi, je fais partie des satisfaits de ça. Je trouve ça assez génial que le boss de fin de niveau commence en numéro 1 au Rumble. Je pense que ça faisait assez longtemps que c'était pas arrivé, un truc pareil. Donc du coup, il y a un peu une forme de surprise, un peu de... Voilà, tu vois, la WWE nous a un peu... voilà, nous a un petit peu retourné le cerveau pour une fois, de manière positive, moi, je trouve, quoi. Donc j'ai lu à droite, à gauche, il y a du pour, il y a du contre, il y a beaucoup de contre. Bah écoute, moi, pour le coup, je fais partie des gens qui sont plutôt satisfaits de voir le Lesnar dans le Rumble.
Ah bah ça tombe bien, les gens qui sont contre, c'est pas eux qui vont entrer sur le ring pour aller affronter Brock Lesnar, ça tombe
Ouais.
bien. Ouais, c'est original, c'est inédit, ça prend, j'irais même, ça inverse complètement le Rumble en fait. Toute la logique du Rumble est un peu inversée.
Eh oui.
Finalement, le Rumble, c'est quoi? C'est être le dernier à arriver pour choper ton ticket pour aller à WrestleMania pour un match. Sauf que là, tu te dis... C'est une bêtise parce qu'il vaut mieux pas être le deuxième à entrer, mais celui qui éliminera Brock Lesnar aura
Bah.
son ticket pour défier Brock Lesnar à WrestleMania. C'est aussi simple que ça.
Ouais, de toute façon, celui qui va sortir Lesnar sera clairement celui qui va entrer en rivalité pour le titre suprême. Ça, je crois qu'il n'y a pas, y a pas de mystère là-dessus, quoi.
Donc je trouve ça très intéressant parce que tu peux avoir deux, on va dire, deux tickets à gagner ce soir-là. Un ticket, évidemment, en étant le dernier à sortir, enfin, le vainqueur du Rumble, tout simplement, qui probablement ira défier The Fiend, sauf si on a un accident terrible impliquant beaucoup plusieurs personnes d'ici là. Et un deuxième ticket à prendre en éliminant Brock Lesnar. Donc, Brock Lesnar, comme je disais sur notre Discord, il est plutôt sympa, le mec. Il vient donner une chance à tous les mid-carders de la WWE en venant un petit peu leur offrir une petite chance supplémentaire d'aller sur la plus grande scène de toutes les scènes en participant à ce Royal Rumble. Donc il y a double prix ce soir-là.
Ouais, tout à fait, ouais, c'est complètement ça. Tu as parfaitement analysé la situation, mon cher IRM.
Moi, je suis comme toi, j'aimerais bien un gros nom en deuxième, plutôt qu'un jobber.
Je fais pas. Ouais, parce que voilà, mon inquiétude, c'est quand même voilà, qu'on ait droit à un premier quart d'heure avec voilà, voilà, un match de Rumble, ça dure un Rumble match, ouais, ça dure entre 1 heure et 1 heure 10 en moyenne. Voilà, mon inquiétude, c'est qu'on ait droit à 15 minutes de défonçage de jobber, quoi. Ça peut être le parti pris par la WWE, ça. Et je pense que ça ferait chier beaucoup de monde, quoi. Alors que justement, si on attaque le match avec un numéro 1 et un numéro 2 monstrueux, waouh, ça peut nous lancer un match historique!
Ouais, bah, carrément. Un petit peu presque à la manière. Alors, je me souviens plus trop. Alors, c'est pas vraiment 1 et 2, c'était à l'arrivée des Gestalt. Ils ont été arrivés 3e. Mais ça envoyait du lourd dès le début, toi. Et les mecs, ils ont tenu. Une fois que le 4e, le 5e arrive, après tout ça, ça se noue un petit peu, toi. Mais c'est au moins les premières minutes, t'as un vrai frisson, quoi.
Ouais, mais sauf que Edge s'était fait sortir vite au final cette année-là. Il a puisque
Bah, vite, c'est relatif dans un Rumble.
ouais, mais bon, si tu veux, c'était surtout pour la hype de son arrivée, et puis après Kevin Owens s'était chargé de lui, quoi.
En lui balançant un Welcome to WWE, je me souviens.
Voilà, ouais. Et du coup, bon, voilà. Mais en tout cas, moi, écoute, moi, j'adhère complètement à ce qui a été annoncé. Je trouve que c'est une bonne idée et que ça nous. Déjà, tu vois, ça met en appétit pour ce fameux Royal Rumble, quoi.
Ouais, exactement, exactement. Bon, un autre. J'espère que tu étais mis en appétit justement par Rey Mysterio, puisque Rey Mysterio.
Moi, je suis toujours en appétit avec mon Ray-Ray, quoi. Ça.
Ah ouais, tu pourrais bouffer hein, des nachos avec Rey Mysterio pendant des heures, je pense.
Clairement, ouais, clairement. Je pourrais même peut-être un jour me fendre d'une émission spéciale Ray-Ray à Catch-Up, quoi. Parce que vraiment, il mériterait d'avoir droit à son heure de gloire sur Catch-Up, quoi.
Ah ouais, une belle résolution 2020. Ouais, t'as 360 jours là pour le faire.
Un spécial Ray-Ray Mysterio à Catch-Up, ça serait pas mal, ouais, pourquoi pas, on y réfléchira.
On y réfléchit? Ok, on y réfléchit. Ce soir, il a son droit à son rematch, hein, parce qu'il s'est fait un petit peu chourer son titre US, ni vu ni connu.
Ouais, on peut dire ça.
et que il nous reparle un petit peu, il tease un petit peu sa retraite. Et il nous dit voilà, il lui reste plus beaucoup de temps, mais voilà, il n'est pas content qu'Andrade ait la ceinture. Andrade, il représente pas bien les Latinos et il va lui rechoper son titre.
Il n'est pas digne.
Il n'est pas digne.
On n'est pas digne. On n'est pas digne.
Bon, bah écoute, on n'est pas digne, mais on a quand même un match. On est digne de regarder un match entre Andrade et Rey Mysterio. Un excellent match, une fois de plus. Hein. C'est difficile pour eux de faire un mauvais match. Et quand ils font un mauvais match, en général, ça reste un bon match. Andrade qui débarque avec... c'est une petite tunique spéciale. Hein. Il a une petite tunique rouge, là. Et Zelina aussi. Donc, il est plutôt fier. Hein. Il est peut-être pas digne, mais il est plutôt fier de porter ce titre. Zelina qui est évidemment là pour un petit peu intervenir dans le match, puisqu'on a à un moment des Andrade qui se retrouve dans les sur les cordes après un Canadian Destroyer, évidemment. Alors, est-ce que c'était ce match qui était un peu chelou? Je sais plus, est-ce que c'était ce match qui était un peu bizarre avec des pubs et tout, un peu bizarre, ou c'était
Alors déjà, ça a été un match pas mal couplé par les pubs. Ouais,
ouais, c'était assez difficile à suivre.
Et puis, c'est un match qui a eu un restart, en fait.
C'est ça, en plus. Il y a eu un restart parce que l'arbitre a
compté 3 pour Rey Mysterio.
Ouais.
Mais en fait, Zelina Vega, pendant ce temps, avait cheaté et avait mis la jambe de son Andrade dans les cordes. Et donc, du coup, quand l'arbitre s'en est rendu compte, alors que la cloche avait sonné et que Rey était en train de célébrer, l'arbitre a dit « Non, 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 non !» Non, 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 non.
Ah, qu'est-ce que c'est con, ça. Je déteste ça, qu'ils vont jusqu'au compte 2-3.
Ouais, ça, moi non plus, je suis pas un grand fanat de ce genre de situation, mais bon, ça nous permettait de reprendre un match qui était déjà bon en soi, et qui du coup a été d'autant meilleur du fait qu'on a eu droit à 3-4 minutes supplémentaires entre les deux, quoi. Ça, c'était plutôt sympa.
Avec cette séquence assez, assez marrante, où effectivement, Andrade balance... Zelina Vega sur Rey Mysterio, et du coup Rey Mysterio est bien emmerdé, et du coup il est un petit peu embêté parce que Zelina Vega se retrouve un petit peu sonné, et El Idolo en profite pour aller le choper et lui placer sur un Merlock DDT pour conserver son titre. Mais le pire reste à venir, puisque visiblement, non seulement il n'est pas digne, mais il n'est pas très réglo, il n'a pas beaucoup de respect, puisqu'il va tout simplement arracher, mais bien, retirer le masque de Rey Mysterio, et ça, on sait que c'est la honte suprême.
Ah là là, ce scandale, quoi. Non mais alors, comment il a osé faire ça, Andrade, quoi. Non mais franchement. Ah, par contre, il y a eu un peu de confusion là dans cette fin de partie, parce que mine de rien, Rey il place un West Coast Pop à Zelina, quoi, quand même. Zelina vient quand même s'encaisser un West Coast Pop, donc c'était quand même assez énorme. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas eu là une espèce de couille, que je me suis demandé si c'était vraiment prévu tout ça, quoi. S'il n'y avait pas, il y a pas eu une espèce de moment de flottement là. Mais en fait, ça a rajouté, j'ai trouvé, à l'intensité de ce match-là, quoi. Et puis vraiment, après, la surprise énorme, surtout entre deux catcheurs mexicains. Vraiment, entre deux catcheurs mexicains, on n'arrache pas le masque d'un autre si c'est pas dans le cadre d'une stipulation bien précise. Voilà, au Mexique, ça n'arrive pas. On arrache un masque uniquement que dans le cadre d'une stipulation. Donc là, vraiment, un manque de respect absolu d'Andrade dans son rôle de heel ultime, là.
Ouais, tu dis genre au Mexique, même la pire enflure ne ferait pas ça.
Ah ouais, la pire des enflures ne fait pas ça, ou va teaser au pire, quoi. Tu vois, quoi, va choper la tête du mec et va tirer. À la Lucha Underground, par exemple, c'était un ressort qui était souvent utilisé, quoi. Il y avait, on essayait de choper, de tirer, etc. Mais le mec s'en tire toujours, quoi, et arrive toujours à garder son masque sur lui. Ou alors il a son masque déchiré. C'est un truc qui arrivait souvent à Phoenix, par exemple, à Rey Phoenix, et où il avait le masque déchiré à la fin du combat. Mais quand il n'y a pas de stipulation, là, vraiment, c'est un affront. Hein. Alors là, au Mexique, alors là, ça aurait été vécu comme un affront énorme, énorme. Et je crois que Rey, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué un peu, mais le réflexe des officiels qui se sont précipités avec la serviette pour lui cacher le visage et tout ça, c'était assez... Mais c'était pas mal, moi, j'ai trouvé que du coup, ça a donné du rythme à toute cette fin de match. Et du coup, j'ai beaucoup aimé tout cet opener, quoi.
Ouais, donc, ça rajoute toujours un petit frisson. Il y a toujours un petit frisson avec ce genre de situation.
Et entre Andrade et Rey Mysterio, c'est quand même pas le premier match qu'ils ont tous les deux. Ils avaient eu beaucoup de matchs en début d'année 2019. Après, il y a eu un espèce de passage d'arrêt. Et puis après, Rey Mysterio a été lancé sur la feud avec Brock Lesnar. Et du coup, je trouve qu'entre les deux, il y a une super belle alchimie. Bon, et voilà, ce coup de Trafalgar du Andrade à la fin avec le masque, bah, j'ai trouvé que c'était bien trouvé. Et que bah, rien de tel pour se faire haïr comme ça que d'arracher le masque du bon vieux Ray-Ray, quoi.
Ouais, et le masque, il le file à Zelina Vega en plus, en offrande.
Oui. Il se barre avec en plus. Il se barre avec le masque. Énorme.
Ouais, et un peu plus tard, Rey Mysterio va récupérer son masque dans une interview. Il agresse son agresseur, Andrade, et
Voilà.
récupère son masque parce que, ouais, faut pas déconner
Ah bah ouais, vengeance quoi,
quand
vengeance, obligé.
même.
D'ailleurs, t'as vu, c'est pas mal parce qu'il vient récupérer le masque, il est filmé de dos tout le temps, quoi. À aucun moment on ne le voit ni de côté ni de face, il est tout le temps filmé de dos. Et puis bah voilà, la vengeance du Rey Mysterio!
Ouais, un peu plus, le caméraman est un peu plus respectueux que Andrade.
Voilà, exactement.
Je zappe un petit peu sur les séquences, toutes les séquences backstage qu'il y a eu. On va un petit peu regrouper tout ça. On a eu une triple frite ce soir pour un autre championnat.
Ouais.
Championnat tag team. On a eu
Ouais, ouais,
plein
ouais, ouais.
de ceintures qui ont été remises en jeu quand même ce
Et
soir.
ouais, après championnat US, on enchaîne sur le Tag Team Championship. C'est bon, quoi, tout ça, quoi.
Toi, nous qui regrettions que justement le dernier épisode de WWE soit pas terminé pour un match pour un titre, ils nous ont peut-être écoutés là, ils se sont dit, oh les gars, oh, ils ont raison, catch-up, on va peut-être pour célébrer un petit peu cette nouvelle décennie, il faudrait peut-être remettre un petit peu en jeu nos championnats.
Un peu de compétition.
Bah ouais, on a les Street Profits qui sont arrivés, ils disent qu'ils veulent un petit peu, voilà, ils s'ambiancent un petit peu, ce soir ils vont gagner le titre, ils veulent la fumée, et ils passent à travers la foule pour rejoindre le ring. Où sont également présents les Good Brothers, les Viking Raiders, pour un match pour le titre. Ils aussi, ils sont venus pour péter des gueules et du coup balancer, donc rentrer un petit peu dans le tas, puisque Karl Anderson chope quasiment la victoire, mais comme Montez Ford a placé un frog splash hein, sur Eric, mais Ivar vient sauver son pote. Et après que Ford et Dawkins se soient occupés de Luke Gallows, c'est bien les Raiders qui isolent Anderson pour la powerbomb et le splash qui suit et la victoire. Donc les Raiders qui conservent face à leurs deux adversaires dans un match plutôt solide qui se dit que quand même la division tag team à Raw elle est plutôt bonne et que c'est un peu con faut pas tergiverser, tu mets ces trois équipes là. L'une en face de l'autre, et puis t'obtiens un bon petit match de 15 minutes, non?
Mais carrément, quoi. Mais c'était un excellent match, moi j'ai trouvé, quoi. Et voilà, enfin, quand tu mets la compétition aux Viking Raiders, ils sont là, quoi.
Enfin!
Enfin, ouais, enfin, c'était très bien d'arrêter avec les 757 000 jobbers depuis un an, là. Donc voilà, quoi. Les Viking Raiders, ils sont capables de sortir un gros match face à deux bonnes équipes, et là c'était le cas. Donc moi j'étais ravi de l'annonce de cette triple frite, et puis ravi du déroulement du combat, quoi. Globalement, bah voilà, hein, les trois équipes se tiennent la dragée haute, et puis ils nous ont montré du catch, quoi. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Pas
Bah
tellement surpris par le fait que les Raiders conservent, parce qu'on est quand même en weekly et qu'il faut quand même pas déconner. Mais, bah voilà, la Tag Team Division à Raw, elle est capable de nous montrer des belles choses. Et ça, je pense que tous les deux, on en est convaincus depuis un moment, hein, parce que moi, je considère que la Tag Team Division à Raw est un petit chou supérieur à celle de SmackDown. Et bah, quand tu vois un match comme ça, pour moi, ça fait que confirmer.
ouais, effectivement, voilà, les Raiders en action, c'est tout ce qu'on voulait voir, parce qu'on a quand même les champions, la meilleure tag team au monde, et puis on va dire une tag team super hot en provenance de NXT. Voilà, tous les ingrédients sont là hein, pour réaliser des super triple frites là comme on a eu ce soir. Donc on a eu quand même, on a enchaîné deux gros matchs de championnat, mine de rien.
Et ouais, et ça fait du bien, hein, comment d'avoir une première heure à Raw comme ça. Hein.
Du coup, on va arrêter de se mettre sur la tronche. On va essayer de discuter. On va essayer de discuter. On va changer de division. On va aller voir ce qui se passe chez les filles. Je sais que tu penses que la division féminine à Raw est meilleure qu'à SmackDown.
Ouais, il y a pas photo pour moi.
Ouais, la preuve, hein, probablement avec la rivalité justement qui de en tête de gondole du show rouge, puisque Becky Lynch est aux affaires avec Asuka. Mais voilà, ce soir, on a un petit package vidéo qui montre un petit peu toutes les fois où Becky Lynch, bah, elle était un petit peu courte, quoi. Et elle a jamais réussi à battre Asuka, finalement. Donc, il lui reste encore une chose qu'elle n'a pas réussi à obtenir, c'est cette fameuse victoire face à la japonaise. Voilà, ça a pas mal changé depuis, quand même, Becky Lynch, depuis cette défaite au Royal Rumble où elle avait perdu le titre pour le laisser à Asuka. Sa vie a pas mal changé. Du coup, bah, Asuka débarque et elle commence à lui gueuler dessus en japonais. Sauf que Becky Lynch, elle lui répond par une énorme droite dans la tronche. Et elle abandonne Asuka étalée sur le ring, qui se relève un petit peu plus tard et qui gueule en japonais. Donc la tension est palpable. Becky Lynch est focus comme jamais et Asuka est complètement tarée. Je pense que là, on obtient là probablement un beau potentiel show stealer pour cette soirée hein, à Royal Rumble. On a quand même
Ouais. Ah ouais, non, mais, enfin, de toute façon, moi je suis complètement là, pour le coup, là, je suis complètement convaincu par cette rivalité qui a déjà eu une grande place en 2019, hein, parce que tout le début de l'année 2019, ça a été quand même Becky versus Asuka. Remember le Rumble 2019, remember ce qui a suivi. Après, il y a eu une espèce d'ellipse, et puis elles se sont retrouvées sur la deuxième partie de l'année 2019 dans le cadre des matchs tag team, etc. Moi, je suis complètement emballé par cette rivalité. Le match, il me tarde de voir ce match au pay-per-view du Royal Rumble. Et voilà, est-ce que Asuka peut se retrouver à être une Asuka two belts? Parce que voilà, ce serait pas forcément impossible. Et puis voilà. Et puis en plus, ce match aussi va certainement conditionner peut-être l'entrée d'une des deux dans le Rumble match féminin. Donc moi je trouve, bah, tu vois, encore une fois, aujourd'hui je crois que je vais être élogieux avec la WWE. Mais voilà encore un truc rondement mené et une belle rivalité qui a commencé et une belle rivalité qui continue.
Effectivement, on peut imaginer plein de choses. C'est pas forcément gagné d'avance pour Becky Lynch,
Ah non?
puisqu'on peut tout à fait imaginer qu'elle ne parvienne pas effectivement à battre Asuka et qu'on se garde ça pour un petit peu plus tard, par exemple à WrestleMania. Hein. Tout est possible.
Tout est possible, ouais. Là, c'est tout à fait possible. Et en tout cas, bah, bien malin qui peut dire qui sera le vainqueur de ce match, parce que moi je dis que c'est totalement ouvert et que Asuka est en totale capacité de battre The Man, quoi.
Ouais, effectivement. Donc, bah, une rivalité plutôt bien menée. Pas besoin de grand-chose, juste deux filles qui se détestent et qui veulent montrer qui est la plus forte. Parfois, c'est aussi simple que ça.
Bah ouais, parce qu'en plus entre Becky et Asuka, il n'y aura jamais eu d'atome crochu. Jamais. Donc ces deux filles vraiment qui pour le coup dans le roster ont toujours été ennemies. Il n'y a jamais eu de rapprochement entre les deux. Et elles continuent à se détester et elles le font bien.
Exactement. Bon, un truc que fait bien Eric Rowan, c'est faire peur à ses petits collègues.
Alors.
Dans une séquence, écoute, cette séquence, ça, j'ai trouvé géniale. Elle est ridicule, mais j'ai trouvé géniale cette séquence où Eric Rowan se balade dans les couloirs avec sa cage recouverte d'une délicate couverture, tu sais, la vieille couverture que tu as à l'arrière de l'auto du grand-père qui sent un petit peu le chien mouillé là,
Le sac à patates.
c'est ça. Mutamojo Rawley qui débarque, qui fait ah, je veux voir dans la cage et tout. Et puis Roman il dit oh, d'accord, ok, vas-y, mais surtout tu dis pas ce qu'il y a dedans, hein. Tu le dis à personne. Mutamojo Rawley est fier de son coup, il dit bon, je pensais pas que ce serait aussi simple. Et il commence à jeter un petit coup d'œil et là il se met à hurler, mais comme un démon, comme s'il avait vu une horreur suprême, quoi, quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Et il lui fait What the fuck? Et il part, genre, qu'est-ce qu'il a vu, quoi? Et je me suis dit, ah, ça y est, on tient quelque chose. On tient quelque chose avec ce gimmick complètement idiot. Eric Rowan, juste après, il démonte un jobber local. Et surtout, bah, nouvel angle, hein, il lui prend la tronche au petit jobber, là, qui devait faire 1,50 m. Et il lui colle la tête sur sa cage.
et le jobber repart en hurlant comme Mojo Rawley, mais avec la tête pleine de sang, visiblement. Hein. C'est bien du sang qu'il avait sur la tronche.
Ensanglanté, le jobber.
Ensanglanté. Il a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Et on se demande vraiment qu'est-ce que ça peut être. Et je me dis, c'est un super angle, parce que dorénavant, avant, tout le monde voulait savoir ce que c'était. Mais on peut dorénavant avoir tout un angle où plus personne ne va aller voir ce que c'est, parce que, grosso modo, Mojo Rawley, il va voir les autres, il fait « Mais surtout, allez pas voir ce que c'est et tout. Mojo Rawley, il est devenu complètement ouf. »
Alors,
bien ficelé.
Mojo Rawley qui débarque là, voilà quoi, qui était un peu, qui est un peu dans les limbes depuis pas mal de temps. Et puis, bah,
oh oui, non, il est à sa place. Hein.
D'ailleurs, après la peur, sur le coup, je me suis dit que le match de Eric Rowan allait être un match contre Mojo, et en fait, non, pas du tout, on nous a recollé un jobber, quoi. Alors moi, pour le coup, j'ai peut-être une petite... Je me demande si on n'est pas en train de nous faire un petit revival de Jack the Snake Roberts. Je me demande si c'est pas un serpent qui est dans la cage. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais, j'ai lu ça, effectivement. Du coup, quoi, il y aurait du sang parce que le serpent a bouffé, il avait son petit repas, son goûter, là, et... Parce que pourquoi il y aurait eu du sang dans la cage ? Parce que on est d'accord que le jobber ressort avec le visage en sang après avoir eu la tronche.
Donc ça veut dire qu'il a été mordu.
Donc, ah, tu crois ?
Pour moi, il est mordu. Enfin, à Peuple de Ketchup, dans les commentaires, dites-nous si vous avez d'autres hypothèses. Hein, mais moi, pour moi, c'est que quelque chose l'a mordu dans la cage.
D'accord, ok.
Et qu'est-ce qu'il peut mordre et laisser autant de sang comme ça sur le visage d'un mec ? Donc moi, j'ai tout de suite, en fait, j'ai pas attendu de lire quoi que ce soit, parce que je t'avoue, j'ai rien lu là-dessus. Mais moi, mon premier réflexe, c'était de me dire, putain, c'est un serpent qui est dans la cage. Quoi.
Mais ça peut pas être qu'un serpent. Mojo Rawley, il pète pas un câble en voyant un serpent dans une cage.
Moi, j'ai une peur énorme des serpents. Donc, moi, je t'avoue, c'est moi qui aurais mis le nez dans la cage, tu m'aurais vu hurler, hein, je te le dis. Hein. Ah, parce que moi, j'ai une sainte trouille des serpents. Donc, Jack the Snake dans les années 80, moi, il me terrifiait. Hein. Dans l'angle, alors là, les moins de 30 ans, voire même les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a eu un match, je crois en 86, un truc comme ça, entre le Macho Man et Jack the Snake, et le Macho Man s'était fait mordre par Damien, quoi.
Pour de vrai, en plus.
Et pour de vrai. Moi j'étais terrifié, quoi, à l'époque, quoi. Mais j'étais totalement terrifié. En plus, le Macho Man, moi, c'est voilà, quoi. Moi, pour moi, c'est un dieu sur pattes du catch. Et moi, j'ai pleuré pour le Macho Man pendant des semaines après cet angle-là, quoi.
Mais est-ce que tu avais déjà peur avant cette histoire de Jack the Snake ou...
Ouais, les serpents ne faisaient pas kiffer des masses, quoi. Mais j'avoue que Jack the Snake, c'était tellement impressionnant. Ouais, il arrivait avec ce serpent énorme. Il faisait tout le temps. Il y avait une autre anecdote. Là, je jouais l'ancien combattant, hein, mais il y avait André the Giant aussi. André the Giant a longtemps refusé d'affronter Jack the Snake Roberts, pas parce qu'il voulait pas affronter le catcher, mais parce qu'il avait lui aussi une sainte trouille des serpents. Et finalement, il a quand même fait des matchs face à Jack the Snake, mais lui-même avait témoigné. D'ailleurs, si vous avez vu le reportage de HBO, ils en parlent, en fait, pendant le documentaire de HBO sur André the Giant. Et où André explique à quel point il était terrifié, quoi, terrifié rien qu'à l'idée de voir, juste voir Jack the Snake avec son serpent, quoi. Et donc c'est pour ça, moi je pars sur l'option serpent.
Ah, ça peut pas être que ça.
Alors quelle est ton hypothèse à toi ?
Ah, faut que ce soit un truc horrible. Si c'est un serpent, il est mort ou j'en sais rien. Enfin, il faut que ou une tête. Moi, je me suis dit une tête de mouton découpée, toi, ou un truc ensanglanté ou quelque chose comme ça. Toi, un truc assez horrifique, un truc qui fait peur, mais genre horrifique. Toi, pas juste une araignée ou pas une bestiole, une simple bestiole, mais il faut qu'il y ait un truc horrifique. J'avais dit que c'est la bite de Luke Harper, j'ai mis sur le Discord, mais... Encore en vie, vivante. Hein.
Vivante, ah ouais, aïe. Tant que c'est pas celle de Bobby Lashley.
Après, voilà, ça peut être un serpent qui a mordu la bite de Luke Harper, hein. C'est pas incompatible, mais on aurait tous les deux raison.
Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je vais rester sur cette idée-là, et puis je verrai bien si je me trompe, quoi. Mais pour l'instant, je vais rester là-dessus.
Ouais, je pense qu'on a autant de chances de gagner l'un l'autre.
En tout cas, pour les jeunes qui écoutent Catch Up, tapez dans YouTube Macho Man, Damian, Jack the Snake, et vous pourrez voir ce fameux segment où le Macho Man se fait mordre. Et vous comprendrez pourquoi le jeune tonton Chris à l'époque était totalement paniqué par cet angle horrible.
Aïe, par contre, à l'inverse, ne tapez pas bite de Luke Harper. Hein.
Ah ouais, non, non, évitez ça, ouais, évitez ça, parce que là, ça va traumatiser des générations entières.
Ouais, puis pas au travail non plus. Si vous tenez à votre CDI, évitez. Allez, assez parlé de ce grand guignol d'Eric Rowan. Hein. On va parler d'un gabarit un petit peu plus petit, puisque AJ Styles débarque. Il a un match ce soir contre Tozawa, mais le match ne va pas durer longtemps. Ça dure 2 minutes. Mais par contre, on a droit à un RKO de AJ Styles sur Tozawa. Et ça, c'était pas mal. On avait même carrément plus qu'un RKO.
Oui, plus
AJ Styles a reproduit tout le rituel du serpent.
Ah, ouais, c'est exact, ouais.
D'accord, je vois où tu veux en venir.
Ouais, on est toujours dans les histoires de serpents, là, tu vois, là, encore une fois.
C'est peut-être pas la bite de Harper, c'est peut-être la bite de Orton.
Ça a été assez court comme match et comme segment, mais moi j'ai trouvé AJ Styles excellent, enfin, comme d'habitude. De toute façon, ce mec, c'est un pro ultime, quoi. Et vraiment, son imitation, on va dire, des moves et des attitudes de Randy Orton était excellente, quoi. Parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu que le RKO, quoi. Il y a eu la pause, il y a eu je frappe sur le ring, il y a eu la totale de la part des Gestalt, quoi, qui a taunté au max le Randy Orton, quoi. Donc, j'ai trouvé ça très sympa, quoi.
Moi, ce que j'ai adoré, c'est que AJ Styles jamais ne fait de squash match. Est-ce que tu te souviens d'un match de AJ Styles qui dure 2 minutes?
Ah ouais, non, c'est vrai que ça, c'est très très rare. Mais...
Donc ça rajoute vraiment au côté insolent de AJ Styles. Tu vois. C'est qu'en plus, il a pris son temps parce qu'il a allongé Tazawa assez rapidement, mais il a fait durer un petit peu le plaisir. Toi.
Ouais, non,
parce que ça a duré 2 minutes.
En fait, il porte son phénoménal forearm et en fait, il casse le tombé à deux. Quoi. C'est lui qui le casse. Et ce qui est énorme, c'est tout le côté pro de ce AJ Styles, quoi. Parce qu'il nous tease un Styles Clash, quoi. Et finalement, il arrête et il préfère poser le DDT entre les cordes, le fameux DDT entre les cordes de Orton, quoi. Et vraiment, non, mais moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé AJ Styles génial dans ce truc-là, quoi. Avec un Tozawa qui a tout vendu comme il fallait. Donc, c'était un segment parfait.
Ce que j'ai aimé aussi, c'est que AJ Styles faisait exprès de mal imiter Orton, qu'il faisait sa pose sur le turnbuckle de statue grecque de Randy Orton. Ouais, mais c'est bon derrière, il le faisait tellement mal, mais c'était drôle du coup.
Ouais, et puis c'était volontaire, voilà. Quoi. Voilà, s'il avait voulu faire un truc parfait, il l'aurait fait, mais là justement, c'était pas le cas, quoi. Il voulait vraiment se foutre de la gueule ouvertement de la vipère, et il a bien raison, AJ.
Ouais, il a bien raison. Ceux qui ont peut-être moins raison, c'est tous les gens qui sont impliqués dans l'histoire entre Bobby Lashley et Lana et Rousseff, hein, parce que c'est pas fini cette histoire. Bobby et Lana sont bien décidés à se marier. Du coup, ils sont tellement décidés à se marier qu'ils ont quand même attendu une semaine pour le faire. Ils auraient pu finalement le faire fissa ailleurs, mais non, ils le refont ce soir avec le retour du prêtre. Hein, il était là, hein, notre prêtre qui est coach des Patriotes aussi. Oui, il était là. Hein. Ouais.
Bah, les Patriotes d'ailleurs ils se sont fait sortir contre les de ce que j'ai entendu dire, j'ai pas vu d'image, mais j'ai entendu dire que apparemment ils se sont fait sortir au premier tour des playoffs face aux Titans.
Et ouais, exactement. Ah, donc à mon avis, c'est pas pour rien. En même temps, si le coach préfère aller faire des idioties pour officier des mariages à WWE, il était pas focus Belichick, hein.
C'est quand même incroyable parce que les Patriots, c'était les tenants du titre, mine de rien, quoi.
Tenants du titre, mais la wild card, comme on appelle, c'est-à-dire le premier tour des playoffs, leur a jamais réussi. D'habitude, ils ont une impasse, toi. Ils ont une, tu peux avoir une.
Une impasse au
premier match. Ouais, côté haut classé, les meilleurs du classement ont une semaine de repos pendant que les autres se battent en wild card. Et là, cette fois-ci, bah, ils n'ont pas eu ce pass et du coup, bah, ils se sont fait sortir dès le premier tour.
Et ouais, ça arrive même au meilleur.
Ça a duré moins longtemps qu'une rivalité entre Bobby Lashley et Rusev.
Malheureusement, ouais. Malheureusement,
du coup, bah, ils veulent se marier. Ils le font assez rapidement, en fait. Il n'y a pas d'embrouille. Mais Lana, elle est pas là, elle est pas contente. C'est tant mieux, elle devrait être contente et elle est triste et ça va pas. Et c'est à cause des gens, des fans. C'est le plus beau jour, censé être le plus beau jour de Bobby et Lashley, mais c'est pas le cas. Tout le monde essaye de tout foutre en l'air et ça, c'est à cause de Rousseff. Lashley est pas content. Rousseff, c'est à cause de Rousseff. Et Rousseff débarque et il est visiblement en vacances à la plage. Ou en vacances ouais, dans les studios.
Ouais, voilà, ouais, avec un vieux faux fond d'île paradisiaque tout pourri.
Ouais. L'arrière-plan Windows 97, non?
Voilà, c'est ça.
Version été. Ils sont misérables. Ils devraient plutôt aller sur la plage avec lui. Et il a un cadeau pour eux, un petit album. Un petit album qui est un récap du fiasco qui a été le tentative de mariage de la semaine dernière. Lana et Lashley sont pas contents. Enfin, c'est Lana qui commence à gueuler. Et là, on a un petit début de ce que j'avais, non pas prédit, mais quelque chose que je souhaiterais près. C'est Lashley qui dit à Lana de la fermer.
Ouais.
Et ça, c'était pas mal. Lana qui se trouve, oh, d'accord. Et Bobby Lashley, il gueule après Rousseff. Il dit, si t'as des couilles, viens me voir. Rousseff, il dit, bah, y a pas de problème. Je viens la semaine prochaine. Il arrache sa chemise hawaïenne. Et il dit, je vais démolir Bobby Lashley. Et Lana pourra garder ce qui en restera. Et c'est comme ça qu'on nous relance cette histoire. Le retour de la brute bulgare.
Ouais. Bah écoute, je vais pas m'éterniser sur ce segment parce que tellement c'était pauvre, tellement j'en ai marre de cette rivalité. Lana, elle a encore trouvé le moyen de botcher. Elle a même carrément à un moment, carrément, elle a été obligée de baisser le micro pour parler avec Lashley parce que je pense que soit elle avait oublié son texte, soit elle se souvenait plus si Lashley devait parler ou quoi.
Aïe, aïe, aïe.
Lashley, il a toujours les yeux totalement dans le vague. Il a l'air, mais totalement perdu dans cette rivalité.
Ouais, c'est-à-dire qu'en plus, elle est pas aidée. Bah, si au moins elle avait quelqu'un, une espèce de vétéran de la promo qui était avec elle pour l'aider, mais là, le mec est juste pas là en fait.
Si encore elle avait un catcheur en face d'elle qui était un balèze au micro et qui serait capable de un peu sauver les meubles quand elle est en plein botch, mais là, même pas. Lui, il est là, il a les yeux globuleux, il se rend compte en fait au bout de 2 minutes qu'il a oublié la moitié de son texte, et il se rend compte qu'elle aussi en face, elle aussi, elle oublie la moitié de son texte. Donc, non, c'est tout pourri, quoi. Vraiment, c'est de la merde. Et alors autant j'ai été, je pense, assez indulgent avec le mariage de la semaine dernière, autant là on est reparti dans un truc tout pourri. Il y a que Rousseff pour plus ou moins sauver le truc, quoi. Mais parce que bon, lui, on sent qu'il rigole, qu'il est rigolard, que voilà, quoi. Que c'est assez d'ailleurs étrange, quoi. On a l'impression que Rousseff, il a l'air de s'éclater dans cette rivalité.
Ah, je pense qu'il s'amuse, ouais.
Il est bien tout seul, hein, parce que en tout cas moi c'est pas mon cas, ça m'éclate pas du tout.
Bon, bah écoute, on va pas s'éterniser. Alors, moi, je veux pas récupérer un Chris triste dès le début de l'année.
Ouais, non, ils vont pas me transformer en Captain Lexomil, quoi, dès le début de l'année, quand même. Merde.
Pas ça, non.
Tout fait pas ça.
Bah, du coup, dans cette histoire, on se demandait un petit peu où était passé Liv Morgan, quand même.
Ouais. Hein? Mais, pour le coup, elle est arrivée juste après, il me semble.
Ouais, juste après, avec durant l'interview de R-Truth. Et elle interview R-Truth et elle dit que elle sera dans le coin de Rousseff pendant le match face à Bobby Lashley.
La semaine prochaine.
On n'en saurait pas plus, donc voilà.
Ouais. On peut juste constater dans cette interview qu'on apprend que R-Truth a battu le record du nombre de titres à la WWE, quoi.
Oui, bravo à lui, hein, félicitations.
Incroyable hein, quand même, hein. Juste avec le 24-7, il a réussi à battre le record. Alors, je sais pas, il faudrait regarder dans les archives, mais je sais pas quel était le recordman à la WWE de ça. À mon avis, ça devrait être pas loin d'être un John Cena, mais du nombre de titres cumulés. Mais bon, là, le juste avec le 24-7, plus ses titres US, etc., et ses titres tag team, et ben, il devient le champion undisputed de la WWE en nombre de titres.
C'est une bonne question, hein. J'invite nos auditeurs à chercher avec nous.
Ouais.
Je ne serais pas étonné que non plus que ce soit un mec qui est tout tâté du Hardcore Championship
peut-être
à l'époque.
Aussi.
Je ne sais plus qui est...
En cumulé, quand même, moi je mettrais John Cena quand même. Quoi. Ouais. Entre les titres US, le titre intercontinental, les tag teams, les 16 titres de champion du monde, quand même, il ne doit pas être loin le John Cena. Hein.
Ouais. Ou un petit gars là, Kofi Kingston ou à The Miz. Toi, les mecs qui ont enchaîné aussi les titres. Kofi Kingston ouais. était assez connu pour être rarement sans ceinture.
Ouais, c'est vrai.
D'ailleurs, ils avaient fait un petit clin d'œil à ça lors de l'épisode de SmackDown que vous avez analysé avec The Miz.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Bon, allez, on reste dans, on retourne dans la division féminine. Charlotte a étalé Sarah Logan. Voilà. Ouais. Je pense qu'on peut juste dire ça.
Un squash match. Il n'y a pas eu de match. Alors, je dis un squash match, mais non, c'est même non. pas le cas. Parce qu'en fait, il n'y aura même pas eu de match.
Merci Sarah Logan d'être venue. Tu peux repartir. il a des gens, des fois, dans le formol en disant ils vont peut-être les repackager, ils vont revenir fort et tout. Pas du tout.
Ouais, ils l'ont repackagé, ils lui ont mis du maquillage.
Ouais, bah super. Génial.
Voilà. C'était le repackaging de Sarah Logan. Merci d'être venu. À bientôt.
Est-ce que tu veux qu'on parle de l'homme le plus hot du moment?
Le bel homme.
Ah ouais. C'est vrai qu'il est pas mal. Hein.
Quel bel homme.
Oh là, je sais pas. Il est au-dessus de tous les standards de beauté, de mode. Et de, voilà. Hein. On a des beaux. On a des gens qui sont beaux à la WWE. Il y a des moches aussi. Il y a des gens qui sont beaux. Et puis il y a Drew McIntyre.
Et puis il y a Drew McIntyre. Quoi.
C'est Drew McIntyre, il est au-dessus.
Le mec qui fait mouiller tout le quartier du Marais à lui tout seul.
Et pas que. Les touristes, tout le monde.
tout le monde mouille devant Drew McIntyre. Je veux dire, c'est un truc.
Bah, la preuve, puisque Noé José est venu avec tous ses potes, tout le monde veut s'approcher hein, du dernier roi d'Écosse, hein, Drew McIntyre. Il y a un match. Mais qui dure pas très longtemps, puisqu'en 1 minute 35, Claymore kick et c'est fini pour Noé Rosé.
Tout en défonçant la Conga Line en même temps.
Oui, ils sont tous passés.
Ah, ils ont pris cher la Conga Line, mais alors, il en aura mis. D'ailleurs, il a dit, moi j'aime pas les Conga Line.
Oui, c'est vrai, il l'a dit.
Il a dit, je déteste les Conga Lines, sauf dans les fast-food.
Et en plus, il est drôle, il a vraiment tout pour lui.
Et puis il a un nouveau gimmick avec le Claymore aussi. C'est ça aussi, ce mec, en plus, il rajoute des choses et c'est intéressant.
Ouais,
ça fait deux lundis de suite maintenant qu'il rajoute un 3-2-1, un nouveau signal en fait,
ouais.
pour indiquer qu'il va porter son Claymore. Quoi. Et son Claymore, c'est
évidemment
un des finishers les plus destructeurs de la WWE à l'heure actuelle.
Tu sais que c'est né d'un gros botch, hein, ce finisher.
Ah ouais,
ouais.
Explique-moi.
En fait, alors. Putain, merde, j'ai l'air con maintenant parce que je me souviens plus c'est lors de quel match. mais c'est bon, peu importe. Je vous retrouverai, je vous le dirai la semaine prochaine.
On peut lui mettre à son crédit encore une fois, quoi. C'est-à-dire que c'est un heel, mais c'est un heel qui, dans certaines phases, fait réagir la foule presque comme un face. C'est assez étrange, quoi. Et puis moi j'aime bien parce qu'après derrière il prend le micro, il dit qu'il va faire partie du Royal Rumble, qu'il se fout complètement de qui il va devoir battre, quoi. Et qu'il va défoncer tout le monde. Et moi, j'adore quand ces mecs-là, ils les posent sur la table comme ça. Et moi, je dis qu'une chose, c'est que Drew McIntyre, c'est du main event material.
Ah bah, carrément, ce mec, mais... Hein, on a déjà dit ça en 2019, mais là, 2020, si c'est pas l'année de Drew McIntyre, je comprends pas. Hein.
Ouais, non mais là, moi je signerai demain hein, pour un Brock Lesnar versus McIntyre, mais là, mais que du bonheur, quoi. Un match pareil, mais j'adorerais voir Lesnar se prendre un Claymore pleine face, quoi.
De toute façon, je ne comprendrais pas pourquoi il lui ferait cette espèce de face turn, un peu twinner, quoi, s'ils n'avaient pas un gros plan pour lui.
Ouais, ouais, et puis là, en plus, il est dans une phase, là, il défonce un peu tous les jobbers, où il gagne des handicap matchs. Enfin, là, il y a une grosse, grosse montée en puissance, là, depuis, on va dire, ça fait un mois et demi, là. Il y a une grosse, grosse montée en puissance de Drew McIntyre. Je suis quand même très curieux de voir quel va être son booking au Rumble match. Et ça m'étonnerait pas qu'il soit dans le Final Four, déjà, tu vois, au Rumble Match. Et après, à voir. Mais moi, en tout cas, j'espère que cette année 2020, ça va être l'année Drew McIntyre.
Ça me revient. C'était à l'époque où il était encore à WWE, mais quand il était avec les Free MB, qu'il a inventé son finisher. Ouais, ouais. Ça me revient, parce qu'effectivement, j'y pensais à l'époque où il était le Chosen One, mais non, c'est beaucoup plus tard. Il était avec les Free MB, et... c'était un match, je crois qu'il y avait Ryback ou je sais plus qui. Et c'est un match des Free MB et tu sais, ils avaient leurs pantalons de cuir.
Ouais, tout ça.
Il avait une espèce de pantalon de cuir hyper moulant là. Et en fait, il a voulu porter, c'était très serré, c'était assez peu confortable, et il a voulu courir vers son adversaire, qui était je crois Ryback, pour lui faire genre une big boot. Hein.
D'accord.
Mais le pantalon était tellement étroit que quand il a levé son pied, en fait, il a soulevé l'autre jambe en même temps, parce que sinon ça serrait trop, il se serait arraché les couilles. Et du coup, il a commencé à tourner sur lui-même et à tomber en arrière sur la tête. Donc il était con, il était sonné. D'accord. Le mec. Puis après, il a dû regarder la vidéo et puis il s'est dit « Ah ouais, c'est pas mal ça !» Et puis j'ai réussi à le faire, enfin je suis toujours en vie, j'ai fait un truc cool, il y a peut-être quelque chose. Et c'est de là qu'après, il n'en a pas fait son finisher tout de suite, mais c'est une petite graine qui a été plantée dans sa tête, et c'est comme ça qu'est né Claymore Kick en faisant un botch face à Ryback, à cause d'un pantalon en cuir trop serré.
D'accord, comme quoi le pantalon en cuir, hein, ça peut déclencher des vocations.
Ouais, ça peut après, toucher vers le main event.
Ouais, après quand tu vois un peu le parcours de Skatcher, c'est quand même assez incroyable, hein, ce gars-là, il était considéré, voilà, c'était le Chosen One, on est considéré comme l'avenir de la WWE, il a été vendu super méga fort quand il est arrivé, finalement il est descendu dans les abysses, il s'est retrouvé avec les 3MB, finalement, ça se casse la gueule, il se barre, il part dans les fédés britanniques, il se refait un peu la cerise, je sais plus, c'était, alors là, Ringside est pas là, mais je crois que ça, c'est la Evolve en Grande-Bretagne. Et puis finalement.
Ah, il a été à la Evolve, hein.
Ouais, c'est la Evolve, hein, la fédération anglaise, ouais, c'est ça, ouais.
Il est
retourné aussi dans sa fédé d'origine écossaise, dont je ne peux plus vous dire le nom. Et puis finalement, il part à la TNA. À la TNA, il gagne le titre mondial. Et finalement, il décide de revenir à la WWE. Bah, à l'époque, on peut dire par la petite porte, puisqu'en revenant à NXT. Et puis maintenant, on voit où il en est. Moi, je dis chapeau. Hein. Moi, je gars, il a un parcours incroyable quand même. Hein. Un parcours incroyable dans le catch professionnel. Quoi.
Ouais, bah d'ailleurs, il y a un petit reportage, une espèce de petite interview sur le network. Sur Drew McIntyre, là, Break It Down, qui est plutôt sympa. On apprend d'ailleurs comment il a eu son nom, McIntyre.
Oui, je l'ai vu ouais. Ça. Ouais, tout à fait, ouais.
C'était
ouais,
au dernier moment dans la Gorilla Position, quoi.
Puis qu'on lui avait proposé Drew McDonald, et puis il a dit « Ah non, mais moi j'ai un pote qui s'appelle McDonald, je veux pas m'appeler comme ça, et tout ça, quoi. » Et puis que ça a été quasiment 3 minutes avant de rentrer sur le ring. Finalement, en regardant dans la liste, ce qui suivait, c'était McIntyre. « Ah ouais, McIntyre, bon allez, vas-y, banco.
» Et quand il entre sur son titantron, c'est encore écrit Drew Galloway.
Ouais, c'est ça, ouais, exact, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a encore son nom d'origine qui est écrit sur le titantron. Ah, c'est pas mal.
Je vous invite, si vous trouvez le Skatcher, enfin, qui ne le trouve pas intéressant, mais c'est plutôt sympa. Il parle notamment de ses deux face-à-face, face au Taker, qu'il l'avait affronté une première fois, qu'il avait 20 ans, et... Il comprenait pas ce qui se passait, toi, il était un petit peu sûr de lui en même temps. Et puis, genre, 15 ans plus tard, quoi, il a complètement changé. Quand tu l'écoutes aujourd'hui, ce mec, il a vraiment la tête sur les épaules, quoi.
Ouais, ben voilà, c'est la maturité. Ah, quoi, ouais. Tu vois, quoi. Je crois que le Chosen One, de toute manière, c'était quelque chose de trop lourd pour lui à l'époque. Il était trop jeune. Et ouais, je pense que c'était tout simplement trop lourd. Et puis, avoir des attentes comme ça de la part d'un Vince McMahon. Ça devait être pas facile pour un jeune catcheur comme ça, quoi. Donc moi, je pense que voilà, on est typiquement dans l'exemple d'un catcheur qui a su se réinventer et qui maintenant, pour moi, fait partie des piliers de Raw et à qui je souhaite plein de bonnes choses et j'espère un titre mondial à terme.
Ouais, effectivement, je vois pas pour ce qui devrait les empêcher. Hein. Franchement, il a tout pour lui. Bon, un autre qui avait, bon, peut-être pas tout pour lui, mais à qui on pouvait entrevoir de grandes choses, c'est Aleister Black. Ça y est, il a des matchs Aleister Black.
Ouais. Il est sorti de la cave, là, ça y est, là, maintenant, là, il...
Ouais, parce qu'il n'y a pas du tout de séquence dans sa cave, là, on est d'accord, ce soir-là.
Ah non, là, ça fait déjà 2-3 semaines, maintenant, ça y est, c'est fini, ça.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est rentré dans le rang et qu'il a plus de gimmick et que c'est terminé?
Alors ça, c'est compliqué comme question.
Pas gimmick,
quoi,
mais d'angle, que... toi, un angle.
Ouais, un angle, en tout cas, un angle, bah, il n'y a pas véritablement d'angle. En fait, là, on l'a mis dans une rivalité.
Oui, quoi. C'est vrai. C'est vrai que, bon, voilà, il a un match contre Shelton Benjamin, qu'on a sorti du formal, lui, pour la peine. Voilà, il s'est fait, bah, il est mort, hein, mort au combat. Il s'est pris un gros black mass et il est mort à 44 ans. c'est jeune, mais bon, il a eu une belle carrière, quand même. Et c'est Buddy Murphy qui a attaqué Black, c'est ça, après le match.
Ouais, c'est ça, ouais. Ah, écoute, c'est pas mal cette rivalité, hein. Ils nous ont sorti déjà deux bons matchs, donc là je pense qu'on va en avoir un troisième. Je sais pas si ça, il va y avoir un troisième au pay-per-view, ça m'étonnerait qu'il y en ait un. Sur la carte, je pense pas qu'on aura droit à un Aleister Black, Buddy Murphy, ou peut-être dans le pré-show à la rigueur. Mais parce qu'à mon avis, tous les deux vont être tout simplement dans le Rumble, quoi.
Ah
Et
ouais.
ils vont avoir une interaction dans le Rumble l'un contre l'autre, quoi.
Évidemment, faut qu'il y ait une petite minute ou deux, enfin une minute, hein, parce que 2 minutes c'est beaucoup. Une minute d'interaction hyper intense entre les mecs là, quoi. Où ils se foutent des kicks dans la tronche et qui s'éliminent tous les deux en même temps, à la limite, ou peu importe, mais.
On est connectés, j'allais dire la même chose.
Un énorme black mass là, alors que l'autre est sur le turnbuckle et puis boum, c'est fini, quoi. Ça peut être assez sympa, mais c'est ça que j'aime bien dans le Rumble, c'est d'imaginer tous ces mecs qui se mettent déjà sur la tronche, se retrouver et puis en redécoudre à nouveau avec d'autres gars qui sont autour, qui font semblant d'être assommés pour les laisser faire.
Alors là, quand même, Buddy Murphy, il a été sale, hein, quand même, hein, parce qu'il a, il prend une chaise, il la met sur le coup de Black, il lui met son fameux coup de genou, là.
Ouais.
Et après, il imite la pose de Aleister Black sur la barrière de sécurité. J'ai trouvé ça très bon, quoi. J'ai trouvé, voilà, cette rivalité, en fait, moi, je suis toujours dans le délire que moi, il me manque toujours une petite ceinture ounette.
Mais non, mais arrête avec cette histoire de ceinture.
Justement, là, j'allais dire que justement, là, en fait, la rivalité en elle-même me sied tout à fait et que je trouve que c'est très bon ce qu'ils proposent tous les deux. Et du coup, je reste totalement à l'écoute de cette rivalité et ça me plaît bien comme ça.
Bon, bah, si t'es ravi, je suis ravi. Et si on est ravi, tout le monde est ravi. Kevin Owens,
voilà.
Samoa Joe, oui. Ils ont des affaires face à cette Rollins.
On se fait des bisous, peuple de ketchup, on s'aime.
Ouais, ouais.
Ici, on est comme ça.
Bon, notre fil rouge, c'était justement Rey Mysterio. C'était Samoa Joe et Kevin Owens. Ils ont eu plusieurs interactions. Ça a commencé assez tôt. Ils ont une interview pour dire que voilà, c'est pas trop des joueurs d'équipe, hein, c'est pas des team players. Mais dans ce cas-là, ils ont besoin un petit peu l'un de l'autre et ils vont travailler ensemble. Et Samoa Joe réclame la tête de AOP et Rollins. Du coup, ils disent, bah attends, on est trois, on va leur rentrer dedans. Et puis, Kevin Owens dit, mais attends, troisième, c'est qui? C'est. Comment elle s'appelle? Caruso. Caruso. La intervieweuse qui était là, elle fait, non, 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 mais t'inquiète, j'ai un gars, je te dirai qui c'est. Enfin, je te dis, tu verras, fais-moi confiance. Alors, Kevin Owens, c'était, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je veux savoir, il faut que tu me dises. Et puis à la fin, il dit, bah allez, je te montre. Et donc, il l'amène dans une petite salle, ils ouvrent une porte. Là, Kevin Owens, il voit qui c'est, il ressort, il fait, ah, mais, c'est excellent. Enfin, visiblement, il est assez impressionné par la personne qu'il vient de voir. Et Charlie Caruso n'a pas le droit d'aller voir. Samoa Joe botte, je referme en ouvrant. Il veut faire semblant d'ouvrir ou de fermer la porte, mais il a complètement botché. C'était plutôt drôle, il a du mal avec le mobilier, hein, Samoa Joe. À ce moment-là, tu te dis, mais qui ça peut bien être? Toi, à qui t'avais pensé?
Ah bah là, franchement, j'avais aucune idée. Alors là, j'avoue, en toute honnêteté, je savais pas.
Tu t'es laissé porter par le truc.
Ouais, là je me suis dit, bon, écoute, on va voir, ça va être la surprise du soir, c'est bien, c'est en main event en plus, donc pour le coup, j'avais pas d'idée précise, donc je me suis dit, on va bien voir.
Bon, de toute façon, la surprise, elle était grosse, elle était énorme, puisque l'homme qui est venu accompagner Kevin Owens et Samoa Joe pour affronter Seth Rollins et AOP, c'était tout simplement... le Big Show.
Ouais, le gros spectacle est de retour. Il n'avait pas catché depuis, je crois, novembre 2018.
Ah ouais, il était semi-retraité, genre.
Ah ouais, presque trois quarts retraité. Ouais. Donc vraiment, et pour le coup, grosse surprise qui marche, parce que vraiment, s'il y en avait un auquel j'avais pas pensé, c'était bien le gros spectacle, quoi.
Ah ouais, bah tu sais quoi? Moi j'y ai pensé.
Ah ouais?
Parce que.
T'as des pouvoirs divinatoires. T'as des pouvoirs divinatoires, Irem, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, c'est juste que à cause de Ketchup, je regarde beaucoup, beaucoup trop la WWE. Et je sais que quand t'as pas vu le Big Show depuis très longtemps, s'il doit y avoir un retour pour un match de tag team player qui va impressionner les foules, ce sera le Big Show. Surtout que lui, quand il revient. Bah, il revient face, peu importe son alignement qu'il avait juste avant, qu'il soit il ou face, il reviendra face.
Ouais, puis dans 2 semaines, il reviendra à Heal, et puis dans 3 mois, il redeviendra Face, et puis ainsi de suite, quoi. Il en est à quoi? À son 677e turn?
Je pense que voilà, on parle de record de championnat, mais je pense qu'en termes de record de turn, c'est difficile d'aller chercher le géant, quoi.
Ah ouais, je crois que le gros spectacle là-dessus, c'est vraiment le recordman absolu du turn.
Bon, on a eu un match de 10 minutes, bon, avec Big Show hein, qui a un petit peu détruit tout le monde à coup de grosses claques là, sur le torse. C'est quasiment lui qui a fait tout le boulot. Hein. Il a fait des choke slams sur Akam et Reza. Et après, bah, c'est Seth Rollins qui a placé un coup de chaise hein, pour le DQ.
Ouais. Et puis bah, le Big Show, il a placé ses atémis là.
C'est
Voilà,
vrai.
il a dégagé les bronches de tout le monde.
Mieux qu'une séance de kiné.
Ah bah ouais, c'est mieux qu'un ostéopathe, mieux qu'un kiné. Vous avez des problèmes de bronchiolite, appelez le Big Show.
Bon, par contre, voilà, bomber le torse parce que il dégage, hein.
Ouais. Et on peut signaler aussi que. En plus, il a eu droit à une pop énorme. Hein. Le public était. Ça se passait où déjà, Raw, là? Ah, c'était à Oklahoma City, je crois. Mais vraiment, il a eu une pop de la part du public. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi énorme, quoi. Et puis, on peut signaler aussi que le Seth Rollins, t'as vu, il s'est affublé d'un nouveau nom.
Ah, le Messie.
Ouais, le Monday Night Messiah.
Excellent. Très
Voilà.
bien.
Ouais, il était peut-être, comme il était certainement pas content de pas faire l'opener, bah quoi, ça fait 5 ans que je fais l'opener de Raw et aujourd'hui j'ai pas le droit. Bon bah puisque c'est comme ça, je vais me donner un nouveau surnom.
Le Messie.
Avec un. Il faut pas comme ça, il faut parler comme ça avec le nez comme ça. Le Monday Night Messiah!
Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde.
Bon, bah, on a une brawl post-match, et puis
Ouais.
KO, attends, c'est chaud, et puis ouais, une brawl quoi. Ça termine sur une
Ouais, voilà, ça permet à Big Show de placer son punch, quoi, et puis voilà, quoi. Et ça se finit sur un brawl? Ah ouais, j'avais même pas ce souvenir-là.
bah, il me semble hein, qu'il y a une espèce de brawl, bah oui, parce qu'il y a la DQ et puis ça se met sur la
Ah
tronche.
non, il n'y a pas de DQ! Ah si, il y a DQ, si,
Bah
t'as
si,
raison.
il y a coup de chaise du Messi.
Mais oui, il y a coup de chaise du Messi, oui, t'as raison, il y a
Messi,
DQ.
Messi.
Les Face gagnent le match par DQ, tout à fait, tout à fait.
Tout à fait, monsieur. Et c'est comme ça que se terminait ce show.
Voilà.
Du Big Show. Avec le Big
Du Big
Show.
Show. Avec le Big Show.
C'est l'heure du mot de la fin. Mon Chris, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Yes. Bah écoute, mon flop, hein, sans absolument aucune surprise, là, on ne peut pas dire que. Là, je suis désolé, peuple catch-up, mais là, vraiment, pour le coup, je ne ferai pas dans l'originalité, puisque mon flop va sans hésiter à Lana et Lashley, quoi, parce que c'est vraiment. Pour moi, c'est une cata absolue, quoi. Pour moi, c'est la pire rivalité de l'année 2019 et c'est en train de se transformer dans la pire rivalité de 2020. Et à ce rythme-là, on va être dans la pire rivalité des 15 dernières années. Donc voilà, c'était vraiment tout pourri. Mon top, c'est assez difficile parce qu'il y a plein de trucs que j'ai aimé. J'ai aimé le match Rey Mysterio-Andrade. J'ai aimé AJ Styles, l'attitude d'AJ Styles dans son truc. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai aimé dans ce Raw. Et d'ailleurs, je vais lui mettre une bonne note. Mais je vais. Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre comme top?
Il y a eu des bons entre les matchs de championnat,
Il y a eu des matchs de championnat. Il y a eu.
le
Bon,
face-à-face des filles,
ouais, c'était dense, c'était dense, c'était dense.
Drew McIntyre, qui est un dieu
Ouais, allez, ouais.
vivant.
Comme on a passé plein de pommades à Drew McIntyre, eh ben, je vais le donner à Drew McIntyre pour le plaisir, parce que cet homme est beau, parce que cet homme est fort, et parce que cet homme doit aller vers le titre suprême, nom de dieu de merde.
Et plus
Donc,
vite
Drew
que ça.
McIntyre, je lui donne mon top pour lui donner un gros, gros encouragement pour l'année 2020, en ce début de décennie, là.
Tout notre
Donc,
bonheur.
voilà, tout notre bonheur à Drew McIntyre. Et ça arrive en plus. Non, mais vraiment, à catch-up, on est trop fort. Et ma note, eh ben, ma note, eh ben, j'ai beaucoup aimé ce Raw, moi, l'un des meilleurs Raw depuis pas mal de semaines. Et je vais lui donner un 3,75.
Là, ma note. Voilà.
Ah, c'est pas
Non, bah
vrai.
si,
Ah non,
si.
ah, là, là. Bon, alors, vas-y, balance
C'est
la
sûr,
sauce.
si vous écoutez Catch Up pour la division et le clash, là, c'est un petit peu loupé.
Non, écoute, ouais, ma note c'est 3,75. Mon flop, je vais le donner au match de Charlotte. Je trouve ça dommage, justement, le fait qu'il y ait un non-match. Je pense que Charlotte aurait mérité d'avoir un match pour montrer que c'est la plus forte, quoi, et pas juste parce qu'elle a défoncé Sarah Logan de façon un petit peu. Enfin, sans qu'il y ait un match. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé voir un petit match avec Sarah Logan. Et mon top, écoute, je me fais un petit kiff, un petit plaisir. Mon top, je vais le donner à Eric Rowan. parce que j'ai été assez surpris et je trouve que c'est voilà, c'était malin, cette petite couche supplémentaire qu'ils ont rajoutée à ce... Parce que ça prend du temps d'antenne quand même, cette connerie, depuis des semaines. Et qu'au moins là, ils en font quelque chose qui a titillé mon intérêt. Dorénavant, les gens ont peur de voir ce qu'il y a dans cette cage. Et du coup, bah, je suis intéressé de voir comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui fait autant peur aux gens. C'est pas juste un truc débile, c'est un truc qui fait peur. Et du coup, je vais me donner mon top à Eric Rowan et sa bestiole, là, et son truc chelou. Là. Et Mojo Rawley aussi. Hein. Mojo Rawley a beau... J'ai bien aimé sa réaction. Il a eu le rôle de sa vie, là, je pense. je suis généreux, c'est la nouvelle année, je suis sympa.
Ah ouais, là, là. T'es pas encore retombé de toutes les bouteilles de champagne que tu t'es enfilé au jour de l'an. et du coup, Mojo Rawley en profite.
Bah oui, il a raison, c'est maintenant ou jamais.
C'est un ancien footballeur américain, lui.
Tout à fait. Mais il y en a un des anciens footballeurs américains.
Oui, il y en a plein à la WWE. Mais est-ce que Mojo Rawley, il a eu une carrière en NFL ou pas du tout?
Non, j'ai pas souvenir de lui. Autant, je me souviens de Brock Lesnar aux Vikings. Il a joué pour les Vikings.
Ah oui, ça, y a pas de problème. Mais ouais, donc Mojo Rawley, c'était plutôt un universitaire, quoi.
Ah, il était universitaire, ça certes, mais c'est pas impossible qu'il ait été drafté, ce mec. Ou alors, pas drafté, mais testé dans les camps d'entraînement. C'est pas impossible. Bon, écoute, je regardais en même temps que je fais l'annonce de fin. Donc, catch up, évidemment, c'est votre podcast. Ouais, j'en botche, du coup, faire deux choses en même temps, bordel.
Ah ouais,
oui, il a rejoint les Cardinals de l'Arizona.
Ah ouais, quand même, il était aux Cardinals, ouais. D'accord, ok.
Attends, il a pas été drafté.
Et tu sais qu'est-ce qu'il jouait comme poste?
Alors, il a, avant d'aller aux Cardinals, defensive end.
Ah, il était defensive end, d'accord, ok. Il jouait dans les squads défensifs, d'accord.
Mais c'est pour ça qu'il a cette position pour faire ses spears. Parce que spear, en fait, hein, le move du spear, ça reprend la mécanique de ces défenseurs qui viennent, qui veulent saquer, donc attaquer le quarterback. Hein.
Ah ouais, complètement.
Position là dans les starting blocks et les mecs foncent tête baissée pour plaquer avec toute leur puissance Tom Brady et autres lanceurs de ballon et c'est vrai qu'il avait souvent ça dans son arsenal.
Ouais, attention, le spear est clairement une émanation NFL style. Hein.
Ouais. Avant, il avait été sélectionné par les Green Bay Packers. Enfin, il avait joué. Comme agent libre, en fait, il avait été chopé par les Packers. C'était en 2009, c'était il y a 10 ans, tout ça.
Ouais, les Packers, grosse équipe, quoi. Donc, grosse franchise NFL, quoi. Donc,
non drafté, mais quand même, il a été remarqué, toi. Il a été remarqué. Mais bon, il a participé à aucun match officiel. Hein. Il a juste fait les camps d'entraînement, toi.
Ouais. Donc, ça a foiré en NFL, et puis on peut pas dire ça soit beaucoup, beaucoup mieux.
Mais il a joué quand même. Dans une équipe de première division universitaire, les Terrapins du Maryland.
Les Terrapins du Maryland. C'est quoi ça, un Terrapin?
C'est une espèce de tortue avec un gros crochet, enfin un gros bec. Terrapins.
Ah, d'accord, ok.
C'est une espèce de grosse tortue du bien Bastoc.
Ouais, je vois. D'accord.
Bon, ben voilà. Bon, Mojo Rawley, hein, qui a été un petit peu notre MVP là, de la soirée. On lui a même fait sa biographie.
On a même fait sa bio au Mojo Rawley. Vous saurez tout sur Mojo Rawley à la fin de cette émission, cher peuple de ketchup.
Ouais, parce qu'on n'en reparlera plus jamais, hein, sachez-le. Comme les, comme les Packers et les Cardinals, on n'en parlera plus jamais. Bon, voilà, hein, ketchup, on parle de catch, mais pas que. Toutes les semaines, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer,
Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. On est également sur les réseaux sociaux et le Discord. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode du Show Rouge de la nouvelle année. Et surtout, cette grosse annonce, hein, on l'oublierait presque, de Brock Lesnar, premier entrant au Royal Rumble. Il va tout démonter. Il va tout démonter. Mais qui va le sortir? N'hésitez pas à nous dire qui vous voyez bien sortir. La bête, Greg. Je te remercie, hein, Chris, pour ta présence et toutes ces histoires, hein, de papy, de vieux tonton là, que tu nous partages.
Avec plaisir, et le patron, avec plaisir.
Voilà, un homme qui a côtoyé André le Géant à Grenoble.
Et ouais, complètement. Ouais. un homme que votre serviteur a vu de ses yeux vus quand il était enfant, dans les années 70. Et oui, ça nous rajeunit pas tout ça.
Tu es une légende qui a croisé une légende.
Voilà. Mais voilà, j'aime t'entendre parler comme ça. J'aime ça.
Baskin's Glory. Allez, on vous laisse. On vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut
Yann. Salut peuple de catch-up. Je suis une légende, bordel.